trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, là, autant que t'aimes mourir, toujours quelques mots en alsacien pour démarrer ma chronique. Mor mir a platz, là, en français, fais-moi une petite place. L'alsacien, c'est l'âme de chez nous, une langue imagée, pleine de poésie. Alors, salut Bissom, cher Krosi Orleple, installez-vous ganz gemütlich et bienvenue sur le 102.9. Vous êtes bien l'écoute de votre radio rayonnante, bouillonnante, étincelante, pétillante et même flamboyante. Bien Muller, langsomme, ça souffa comme si. Sireur de pompe, flagonreur, flatteur, parle-nous plutôt de ton invité surprise. Bah aujourd'hui, j'accueille en grande pompe un meunier de Urtikheim, bel homme, svelte, sportif de haut niveau, au sourire ravageur, il a la patience du vent et la précision de la pierre et le respect du grain. Et puis, petit défaut quand même, il faut le dire, on aime bien tout ça aussi. Écoutez, il n'y a rien à voir. C'est une très belle intro, c'est ce que tu en penses. J'accueille aujourd'hui, cher Thomas, bonjour, d'être venu jusqu'à chez nous, ça nous fait plaisir. Et tu es meunier, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Comment vas-tu ?
Bah écoutez, merci bien, ça va très bien. Bonjour à tous.
Je suis content bonjour de t'accueillir ici. Tu viens de Urtikheim, enfin c'est là où tu travailles.
Hein. Tout à fait.
Urtikheim. Alors parle-moi un peu, comment vas-tu dans ton monde ? Comment vas-tu ?
Bah écoute, très très bien. J'ai une vie qui me plaît beaucoup. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il n'est pas une ligne droite. Il y a plein de virages et j'en suis le témoin.
Ouais, parce que c'est aussi ta passion. On en parlera tout à l'heure des virages et de la route.
Exactement.
C'est vrai. Alors, pour commencer, nous allons évoquer tes années meunier, ta famille, le sport, tes passions. Et tu as un tout nouveau métier aussi.
Exactement.
On en parlera un peu tout à l'heure. Alors, depuis les années 70, la famille Becker souffle sur un moulin sans ailes pour moudre le grain dans le Coros Paris.
Voilà, la famille Becker s'est installée à Urtikheim en 70. Et moi, je suis donc né à Strasbourg en 72, le 9 juillet 72. Et ma vie, elle a commencé à Haute-Pierre, donc à l'hôpital, où un fils de meunier de Urtikheim est né un 9 juillet. 9 jours après, le 18 juillet, est né le fils du boulanger de Urtikheim. Et de là est née une amitié entre lui et moi. Olivier Arbogast et Thomas, ils ont fait les 400 coups. Dans notre jeunesse, on était toujours ensemble à faire du sport, des cabanes, du football, etc.
On en parlera un peu tout à l'heure. Alors, votre moulin n'avait pas d'aile alors ?
Exactement. Non, il n'a pas d'aile. Il y a une centaine d'années, un agriculteur s'est dit « Il y a du blé dans le Kororsberg, j'ai une grande ferme, je vais transformer cette ferme en moulin ». Et effectivement, au milieu d'un village, sans cours d'eau, sans eau, c'est assez atypique, mais force est de constater qu'il avait raison, parce qu'il existe toujours aujourd'hui.
Et c'est l'électricité qui a fait tourner le moulin ?
Voilà, d'abord c'était un moteur diesel qui actionnait les machines, et après les années 40-50, c'était un moteur électrique.
Alors on peut aussi dire que le Kororsberg, c'est le grenier à grains, hein, c'est vrai.
Voilà.
Il y a beaucoup d'agriculture et
voilà. Et le Kororsberg
et le blé venait de là-bas.
Exactement. Voilà, il y a une bonne terre, c'est réputé.
Et très riche, ouais.
Très riche, très lourde. Et du coup, le blé pousse, mais également le tabac, le houblon, le maraîchage. Et c'est pour ça qu'on dit que le Kororsberg est le grenier à blé, effectivement.
Alors avant de continuer, mon cher Thomas, à papoter un peu ensemble, je vais aussi lancer mon petit moulin à moi, c'est rembobiner ta vie, pour parler un peu de plein de choses. Écoute une séquence émotion. Et en fait, c'est pour parler un petit peu de l'enfant. Quel enfant étais-tu, Thomas? Est-ce que tu étais turbulent, sage, espiègle ou tu tenais pas en place?
Je tenais pas en place au niveau... j'avais toujours un besoin de sortir, mais j'étais relativement sage. J'étais pas le casse-cou. Ça, je l'ai laissé à mon frère Fabrice. Mais voilà.
Ça, c'est le petit Benjamin, hein.
Le Benjamin,
non, c'est toi.
Moi, je suis plus jeune.
Fabrice
a un an de plus que moi. Et voilà, je sortais, et j'avais une soif de sport, hein. Football, ping-pong.
Mais à quel âge t'as commencé tout ça, dès ta tendre enfant?
5-6 ans, football à Ittenheim. Urtigheim, on n'a qu'un champ de patates. Voilà, pas de club. Et Ittenheim, on allait dans un club pour faire du foot. Voilà.
Et en fait, entre ton moulin et le restaurant là où tu habitais, c'était un restaurant à tarte flambée, je crois. Hein.
Exactement.
Et un des tout premiers, hein, je crois, à Urtigheim.
Voilà, les premiers étaient plutôt à Anschweim, Fulgrisheim. Mais effectivement, monsieur et madame Brenner, quand on est arrivé en 70 à Urtigheim, faisaient déjà de la tarte flambée et d'une très, très bonne réputation.
Donc, tu as grandi entre le moulin et cette odeur de tarte flambée et entre les deux, tu jouais du ping-pong.
Exactement, exactement. J'avais l'amour de la farine, mais surtout également l'amour de ce qu'on pouvait en faire. Voilà, tarte flambée, brioche, bredele, etc. Tout ça, je suis un gourmand, j'adore ça.
Et alors, cette enfance, donc tu es le Benjamin d'une grande famille, t'as beaucoup de frères et de sœurs. On dit pêche so nur schlupft, on peut dire, en alsacien.
Oh, schlupft nicht. Nein. J'ai un frère qui a un an de plus que moi. C'était à l'époque des grandes familles. On a des parents qui sont assez âgés, de 30 et de 36. Voilà. Et voilà, le frère aîné a 9 ans de plus que moi. Raoul, et voilà, effectivement, le fait qu'on avait des grands frères et une grande sœur nous a montré la voie du sport, de faire des choses. On avait un grand frère très bricoleur qui nous fabriquait des échasses, des tandems, etc.
Et tu parlais de cabanes tout à l'heure? Tu faisais des cabanes dans les arbres?
Absolument, des cabanes dans les arbres. Raoul était l'instigateur, par exemple, de la cabane la plus haute de Urtigheim dans un énorme peuplier. Et moi, avec Olivier, j'en parlais, nous, on a été les seuls à faire un igloo à Urtigheim. Il y avait encore
quand il y avait encore des vrais hivers, quoi.
Beaucoup de neige. On a rempli une caissette rectangle et on a vraiment fait un igloo en bonne et due forme. Et il était magnifique. Au centre de la cour du moulin.
Donc là, tu me parlais de ton terrain de jeu, des jeux avec tes frères et sœurs. Mais est-ce que vous parliez en alsacien ensemble? Avec ta famille, avec tes parents?
Pas vraiment, mes parents parlaient alsacien entre eux.
À la maison?
Oui, à la maison, on disait quelques mots, on est tous parfaitement bilingues, on sait, on connaît l'alsacien, mais forcément, entre nous, ça parlait français. Ça parlait français en dehors de certains mots, hop là, hop, morsietz, etc. Mais sinon, ils nous parlaient en alsacien, on répondait en français.
Hop là, yetz, morsietz, c'était plutôt le truc pour donner du rythme au moulin.
Du rythme, effectivement. on a tous dû travailler, hein, tu sais. Hein, c'était la culture du travail dès le plus jeune enfant.
On va écouter juste un petit peu de musique pour parler de l'alsacien. Viens voir un peu cette musiquette de René Aigles, s'il te plaît, Thomas.
Der Zinse, Olion, die Hüfe, Hüfe. Sterne, wer bloßt sie wieder üs? Die vielische Laternle, wo hoch am Himmel stehen, wenn die Menschen schlafen gehen, sich's Männele im Mond.
C'est le marchand de sable, c'est mignon. Tu connais René Aigles?
Oui, je connais.
Il habite pas loin dans le Korsberg aussi, c'est un de nos grands poètes, alsacien, chanteur et tout. Et là, il chante un peu le marchand de sable. Voilà. Est-ce que vous attendiez aussi le marchand de sable avant de vous endormir?
Écoute, nous, on s'endormait avec le rythme du moulin. Voilà, et mon père faisait tourner le moulin jusqu'à 10h, 11h, minuit le soir.
Mais il faisait du bruit, ce moulin? Il était bruyant?
À chaque fois... À partir du moment où on écrase du grain de blé, il faut de la force. Il y a des machines qui font effectivement du bruit. Et on avait la petite maison alsacienne familiale collée au moulin.
Que je connais, parce que j'ai fait des tournages avec vous là-bas à l'époque, le Keuter.
Exactement. Donc on était bercés au son du moulin.
Ah, c'est beau, ça.
Ben oui.
Et là, c'était le Sandmatch. Alors, il arrivait, vous vous endormiez. Alors, tu me le disais tout à l'heure, tu es issu d'une grande famille. Hein. Vous êtes quatre garçons.
On est cinq.
Et une fille. Hein.
Quatre garçons, une fille au milieu, Marielle. Tout à fait.
Et tout ce petit monde vivait bien ensemble? Il n'y avait pas trop de chamaillerie entre vous?
Oh, il y avait toujours, c'était par couple, effectivement, Raoul et Raphaël, les deux aînés, effectivement, il y avait de la chamaillerie, l'aîné veut toujours avoir le dernier mot, et entre Fabrice et moi, également un petit peu, mais on s'entendait très bien, on avait la même chambre, on dormait ensemble.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Il fallait donc cinq enfants, il faut les caser.
Bah, évidemment. Et alors, l'école, ton école, c'était où? À Urtigheim également?
Urtigheim. Et
à la maternelle, t'étais là?
Maternelle Urtigheim. Et après jusqu'au CM2 entre Urtigheim et Quatzenheim. Il y a un bus de ramassage, collège à Pulgrisheim. Et après le collège, j'ai fait une année à Coufignal pour après partir entre 16 et 18 ans à Paris, à l'école de Meunerie.
Et alors, dans ces petites classes, tu étais attentif, tu étais rêveur ou tu étais un peu un bosseur? Comment c'était l'école pour toi?
Écoute, je suis plutôt un rêveur, j'ai envie de dire, pas un travailleur acharné. Je fais ce qu'il faut pour y arriver. Il y a des classes, le CE2, je crois, où j'étais à deux doigts de redoubler, et le CM1, CM2, où là, j'étais carrément sur le podium. Voilà, donc...
Et les parents étaient derrière?
Les parents étaient un peu derrière, bien sûr. Maman était institutrice.
Donc ça explique tout. Ouais.
Elle nous aidait quand même. Ouais. Mais je me souviens, à l'âge de 8, 9, 10 ans, je me souviens que je leur ai demandé, bon, je peux pas arrêter l'école, là, j'ai envie de travailler. Franchement, j'ai besoin de bouger. Moi, j'ai besoin de bouger, je peux pas rester assis à un bureau.
À écouter le
plastificateur. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible, pas encore.
Mais tu gardes quand même des bons souvenirs de cette scolarité, jusqu'au collège,
bien sûr.
Tout ça.
Comme tu le disais, on dit toujours de moi, d'ailleurs, que je suis quelqu'un qui a toujours le sourire. Et voilà.
C'est vrai, même derrière le micro, voilà. On entend derrière ta voix faire le sourire. Ça s'entend
bon,
vraiment.
Écoute, ouais. Merci.
Mais... Je t'en prie. Écoute, on va aussi écouter une petite musiquette pour aller pour parler d'autre chose, sur un autre chapitre, tu vas voir, une musique que tu vas aimer. Vas-y voir, Thomas. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shelves and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. Alors bien sûr, là, on parle de champions, et en fait, dans ta famille, les Becker, vous avez ça dans le gène, le sport, vous êtes tous des grands sportifs de haut niveau.
Oui.
Tous les cinq, en fait, vous avez tous fait des carrières sportives incroyables.
C'est vrai.
Et ton petit Fabrice également. Mm-hmm. Alors, parle-moi, on va énumérer d'abord ton grand frère Raoul. Qu'est-ce qu'il a fait comme sport?
Raoul, lui, c'était le menuisier de la famille qui nous a fabriqué tous les engins inimaginables. Donc, c'était...
Des engins, tu parles de cabane?
Le tandem, par exemple, etc. Un tandem en vélo, il a fabriqué lui-même.
C'est pas possible.
Mais si, il a fabriqué lui-même un vélo avec des poutres en bois... une roue devant, une roue derrière. Après le vélo est venue la motocross pour lui. Et il était champion amateur d'Alsace, d'enduro. Voilà, il était dans la nature, de la moto dans la nature.
Et tu le voyais, il allait dans la forêt, il allait un peu partout faire de l'enduro.
Ouais, ouais, tout à fait.
Il avait une machine alors, il avait quoi comme...
Il avait une Husqvarna, je me souviens, à l'époque, pour faire de l'enduro. Donc c'était sur les terrains de cross par ici. Mais un jour, je l'ai accompagné une ou deux fois, par exemple dans le Jura, pour faire un enduro. Et ça, c'est en pleine nature. C'est vraiment très, très sympa.
Et il est devenu champion également.
Voilà.
Il a eu des prix,
de
et ainsi de suite. Alors, je sais aussi qu'il a roulé dans la roue de Jean-Marie Benroth,
qui est
un garçon que je connais, qui est un ami, avec qui j'ai fait 12 Paris-Dakar, et qui est arrivé 11 fois. Et moi, je l'ai rencontré en, sur les Paris-Dakar, parce que c'était l'Alsacien du Paris-Dakar.
Exactement.
Et comme moi, que je suis Alsacien, je m'occupais de lui, je le biberonnais, j'y donnais à manger, on se voyait après les épreuves, et je souviens que c'était quelqu'un d'incroyable.
Ah bah c'était le pilote moto de référence en Alsace, effectivement, et je l'ai vu lors d'un enduro dans le Jura, effectivement, c'était un peu la star.
Jean-Marie Bellerot, c'était quelqu'un de taciturne, un gars qui parlait pas beaucoup, mais qui roulait.
Je connais pas.
Mais si, je l'ai bien fréquenté sur le Paris-Dakar, donc on se connaît bien. Ouais. Et il habite là derrière, à la Robertsau, quoi. Je le côtoie encore aujourd'hui.
Okay.
Et donc, ton frère roulait dans sa roue quasiment.
Faisait la même catégorie que lui, voilà. Même type de course moto. Voilà.
Alors là, donc, on va parler de Raoul. Maintenant, il y a le numéro 2, c'est un Raphaël. Et Raphaël, il a fait quelque chose de différent.
Voilà.
Il était sportif sur une platine. On va juste écouter un extrait de musique et on réagira après ça. On va couper, en fait, c'est ce style de musique qui fait, et à quel endroit il fait ça?
Exactement, ça fait une dizaine d'années qu'il est parti à Dubaï, parce que le monde de la nuit, de la musique, ben, c'est là-bas que ça se passe. Ici, tu vois bien, les discothèques ferment les unes après les autres, il n'y a plus de chalets.
France, tu veux dire,
ici, en Alsace. Voilà,
quoi.
En Alsace, oui, tout à fait.
Ouais.
Donc, il est parti là-bas pour faire de sa passion. Il a jamais travaillé, on va dire. Il a fait de sa passion son métier. Et voilà, il y arrive très, très bien. Et c'est le genre de musique qui passe dans les restaurants, dans les restaurants lounge, où d'abord, il met de la musique d'ambiance. Et après...
Tu parles de Dubaï, hein,
parce qu'il est à Dubaï.
Il est à Dubaï.
Il est à Dubaï depuis une dizaine d'années. Voilà.
Et donc, c'est là-bas qu'il... Tu disais que c'était du sport sur une platine.
Exactement.
C'est rigolo. Et tu as déjà été le rencontrer là-bas?
J'y étais il y a une petite année. Exactement, en février l'année dernière.
C'est comment là-bas? Fais-moi un peu rêver, c'est comment Dubaï?
Écoute, si t'as envie de rêver, vas-y, les lumières, mais pour moi, c'est pas ma tasse de thé.
Ah ben moi non plus,
moi, j'ai besoin
te le dire, hein.
de m'émerveiller d'une belle montagne, d'un beau paysage, d'un super vignoble comme en Alsace, etc. On va pas pouvoir faire du VTT là-bas, donc
mais
voilà.
Mais est-ce qu'il est pleinement heureux là-bas, le Becker?
Il est très heureux, il est dans son monde.
Il est dans son monde à toi. Alors là, on va parler d'un autre monde, alors on va parler de Muriel, d'ailleurs.
Marielle.
Ah, je croyais que j'avais une... Marielle, ben effectivement.
Oui.
Et alors, pour quelle raison? C'est un prénom prédestiné?
Absolument.
Raconte-moi ça.
Elle est née en avril 68. Qu'est-ce qu'il y a eu en 68? Les Jeux Olympiques de Grenoble. Et voilà, il y avait Marielle Guachel qui a fait beaucoup de victoires.
Ah, d'accord.
Marielle Guachel. Et donc, elle s'appelle Marielle.
Et parce que ta maman était aussi... Elle avait aussi une âme de sportive. Et ton père
oui.
Pour lui donner ce prénom.
Mon père était sportif, il était footballeur. Il a même joué au Cigogno, au Racing à Strasbourg, amateur. Et ma mère, elle aime un peu tous les sports. C'est elle qui nous a suivis, qui nous a conduits au foot, au ski. Voilà, elle était vraiment là pour nous soutenir.
C'est elle qui vous lavait les maillots, qui vous cousait quand ils étaient abîmés.
Exactement, qui cousait les pantalons de moto quand mon frère faisait une roue arrière trop ambitieuse. Voilà, elle était là pour nous, elle était formidable.
Elle vous mettait aussi les numéros sur les t-shirts, les numéros.
Exactement, les numéros. Bah écoute, tu as un jour accueilli Albert Gemrich, bien sûr que moi j'avais le numéro 11 sur mon maillot du Racing à l'âge de 10 ans, parce que Albert, je le connais bien, sa femme est une arrière-cousine à ma mère.
Ah, vous êtes de famille, ouais.
On est de famille, Martine Gemrich, la femme de Albert, c'est ma marraine.
Ah, ok.
C'est un hasard.
Ouais, c'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, Albert.
Ouais. Oui, oui.
Et alors, parle-moi un petit peu de ta sœur encore. Qu'est-ce qu'elle a fait comme sport, ta sœur? Donc, du ski, j'imagine?
Du ski, beaucoup de ski avec Raoul, Fabrice. Mais elle a également suivi son compagnon à faire du vélo, du triathlon. Elle a deux choses assez importantes à son actif. Elle a traversé le lac Les Monts à la Neige.
C'est pas vrai.
C'était un défi. Elle incroyable. L'a réalisé avec deux
elle
autres.
Elle a fait d'un bout à l'autre, elle
ouais,
y est arrivée.
De Lausanne à Évian.
Et d'où vient ce sport dans vos gènes? Ça vient, tu parlais juste de ton père et peut-être des deux grands-pères paternels et maternels.
Voilà, c'est ça, des deux grands-pères qui étaient assez sportifs, qui avaient la culture de l'effort physique. Et chacun à notre manière, on a voulu aller au bout des choses. On est un peu des jusqu'au boutistes peut-être, des perfectionnistes, je ne sais pas. Mais je ne l'explique pas, mais on est tous un peu sportifs. Voilà.
Après le numéro 4 de la famille Becker, c'est le Fabrice.
C'est Fabrice.
Qui lui a fait un truc incroyable que j'ai rencontré en Autriche avec ta maman parce qu'on y était pendant 4-5 jours. Mmh. Et il faisait du ballet acrobatique en ski et il était champion olympique.
Champion olympique en 92, il avait 21 ans, ça s'était tombé vraiment, le timing était parfait. Il avait fait déjà des résultats, il est double champion du monde, ça passe sur une journée. Mais là, les Jeux olympiques, ça arrivait à Albertville, une épreuve en démonstration. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme le patinage artistique, mais avec des skis. Voilà.
Des skis, il fait des
petits skis,
des
grands bâtons,
des
saltos au-dessus de ses bâtons, des vrilles. Voilà.
C'est comme de la gymnastique, quoi, mais sur ski.
Ben, André, il a fait de la gymnastique.
Ouais, ça se sentait.
Il a commencé à 10-11 ans à l'Alsacia de Bischheim.
Ouais.
Et il a côtoyé un certain Sébastien Loeb qui a
2-3
ans de moins que
sûr.
Lui. Ils ne se sont pas affrontés, mais ils étaient sur les mêmes compétitions.
Sur les mêmes compétitions. Après, il y a le petit dernier, le Benjamin, qui est Thomas. Qui est en face de moi.
Voilà.
Et qui a un volant à mon côté, là, parce que tu étais un... Tu faisais de la course automobile.
La course automobile, voilà. J'ai toujours aimé avoir un volant en main. Dès mon plus jeune âge, j'ai encore retrouvé une photo de moi derrière.
Avant, c'était un tracteur. Hein.
Voilà. Et avant encore, j'avais le volant de la deux chevaux de ma mère en main sur une photo. Après, vers 8-10 ans, il fallait absolument...
Tu la conduisais à 8 ans.
Non, elle était à l'arrêt. Elle était à l'arrêt. Après, je suis allé chez les agriculteurs pour la simple et bonne raison que je voulais conduire le tracteur.
Et tu avais le droit à ce jeune âge de conduire un tracteur ?
Oui, dans les champs. On cherchait la paille, on faisait le tabac, le houblon. Et dès que je pouvais, je me mettais au volant. J'adorais ça.
Donc, tu faisais des allées, des venues avec le tracteur
Plutôt dans les champs.
Pendant les fenaisons,
je crois que
oui.
sur les routes, c'est 14 ans.
Ah oui,
mais
c'est
à 9-10 ans, j'étais déjà chez les agriculteurs pour rouler.
Alors, tu es avec ça, ta passion. Tu es devenu champion d'Alsace, champion
de
France.
Voilà, à 18 ans... Le jour de mes 18 ans, j'ai eu mon permis. Le lendemain, j'étais chez un revendeur de cartes parce que j'avais ce besoin de
faire du karting.
Voilà. D'abord, le karting, c'est une voiture miniature qui se fait ici. On doit aller sur la piste de Bissheim ou Mulhouse ou à Lomrange dans la Moselle. Et voilà, j'ai gravi les échelons. J'ai eu la chance d'être champion d'Alsace-Lorraine. J'ai fait le championnat de France, d'abord en individuel. Et avec deux copains, Bruno et Manu, on a eu la chance en 99 d'être champion de France d'endurance par équipe. Voilà, trois pilotes, un karting et des courses de 6 heures.
C'est incroyable, ça, cette passion commune que vous avez entre frères et sœurs. Et vous la partagez toujours aujourd'hui, cette passion de sport, quand vous vous retrouvez tous à table, en famille, avec les enfants,
oui,
les petits.
Oui, différemment, avec des photos, évidemment, et avec des choses qui évoluent. Moi, après le karting, j'ai fait un peu de course de voiture. Fabrice, aujourd'hui, par exemple, il habite Montréal et il fait plutôt du ski de randonnée. Voilà, donc...
Il a bien de quoi faire. Hein.
Voilà, là-bas. Et il est en ce moment même au Japon pour ses vacances. Il emmène ses skis de randonnée, il va gravir les montagnes et après, il les descend en ski. Et il trouve ça un côté très nature.
Et son nouveau travail, c'est aussi, ça représente... il travaille au cirque, je crois,
ça fait 25 ans, tout à fait. Il est arrivé en 2000 au Cirque du Soleil et il est directeur artistique... directeur de la création des futurs spectacles. Il était pendant un ou deux mois à Berlin récemment pour lancer un spectacle annuel qui va rester toute l'année dans un théâtre à Berlin.
C'est incroyable.
Mmh.
C'est vraiment incroyable. On peut le dire, Thomas, le sport, c'est une sorte de leçon de vie, un apprentissage, le sport. Ça t'ouvre plein de portes.
Écoute, je suis très content que tu me dises ça. Pour moi, effectivement, ça l'est, pour mes frères également. Et Steve McQueen disait, la course, c'est la vie. Avant ou après, n'est qu'attente. Donc effectivement, moi, dans mon sport, il se passe des choses dans un week-end de course, mais on passe par toutes les émotions. C'est du respect envers l'autre, de l'agressivité quand il en faut, du dynamisme, mais également du respect vis-à-vis de son concurrent.
C'est extraordinaire ce que tu dis. Moi, ça me touche aussi parce que merci. J'ai toujours été dans un monde de sportifs pendant ma carrière professionnelle, pendant plus de 20 ans. J'ai rencontré des sports de haut niveau. J'étais même jusqu'au JO. Et là, c'est vrai, quand tu es tout en haut de la pointe, tu rencontres des gens exceptionnels.
C'est une école
simple,
de la vie.
C'est école de la vie, exactement. Et alors aujourd'hui, cette école de la vie, tu as changé de métier, tu n'es plus meunier.
Voilà.
Raconte-moi en quelques mots, tu fais quoi
alors,
maintenant
Donc, pendant 32 ans, j'ai repris avec Raoul l'entreprise familiale, Le Moulin.
Le Moulin, ouais, où je t'ai rencontré quelques fois. Ouais.
Exactement. Et en 2024, on a eu la chance et l'occasion de transmettre ce bien. Voilà, on a les Becker, il y a 10 petits-enfants qui nous suivent. Aucun ne voulait, à moyen terme ou long terme, reprendre Le Moulin. Donc, on a pris les devants pour que ce moulin n'arrête pas, ne ferme pas d'ici 5-10 ans. Et on a réussi à le transmettre à un jeune couple très sympathique du Haut-Rhin, Valérie et Étienne Allemann. Et ils continuent notre œuvre et ils sont vraiment, vraiment efficaces.
Vous êtes satisfait, quoi.
Absolument. Une belle chose.
Et ton nouveau travail, en fait, tu es une sorte d'entrepreneur, tu es architecte,
architecte
d'intérieur. Raconte-moi ce que tu fais.
Voilà, écoute, j'ai toujours aimé construire. Je suis le seul des 5 enfants, par exemple, qui a construit sa maison. Je m'en suis rendu compte par la suite. Et j'aime le côté architectural. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup renseigné. Et j'aime de rien en faire quelque chose de très beau. Donc, j'ai une sensibilité, par exemple, au feng shui. Voilà, qui est vraiment le pourquoi dans certaines maisons, quand on y rentre, on se sent tout de suite bien.
Et pour quelle raison ? Parce qu'il y a une harmonie, tu veux dire ?
Les formes, la disposition par rapport au soleil. À l'est, les pièces plutôt du matin. À l'ouest, les pièces du soir. Pour toujours vivre avec le soleil, très important.
Et de cette passion, tu en vis maintenant ?
Exactement. Je ne savais pas que je pouvais en vivre. Mais
et c'est quoi ton chantier que tu as en ce moment-là ?
En ce moment, écoute, j'ai acheté une belle maison des années 60-70, totalement à rénover.
À quel endroit ?
À Kütolsheim.
Kütolsheim, ouais.
Voilà, très
c'est
beau.
Là où il y a un petit lac avec de l'eau qui
il y a un lac et le chantier, il est 11 rue du lac. J'ai vu sur le lac.
Wow.
C'est un emplacement majestueux. Et on rénove une maison où on va en faire 3 appartements. On va les diviser au mieux. Je me lance dans un projet comme si c'était pour moi. Donc voilà, comme si j'allais y vivre et je vais faire des belles cuisines, des belles salles de bain.
Génial.
Et donc du coup, je touche un peu du doigt ce que j'aurais peut-être aimé faire, l'architecture, architecte extérieur, intérieur, et j'adore ça.
Bah écoute, c'est extraordinaire en tout cas. Et tu as toujours le sourire derrière ce micro, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Et merci d'être venu jusqu'à chez nous.
On a
passé un bon petit moment bien sympathique. Et on te souhaite, on peut encore le dire, une bonne et heureuse année 2026.
Bonne année à tout le monde.
Exactement. Merci Thomas d'être venu.
Merci.
Générique de fin.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.